Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour une nouvelle émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir également à Pierre, à la technique avec la toute nouvelle console. Ça
bonsoir.
Se passe bien ?
Très bien, merci.
Dans cette émission, nous allons accueillir Julien de la Croix-Rouge, puis nous parlerons de l'actualité, nous écouterons bien sûr la chronique de Céline et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par l'éditorial de Sophie. Tu vas nous parler de la répression des manifestants et manifestantes en Iran.
Oui, en effet, depuis le début des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, les autorités iraniennes déploient leur stratégie répressive pour étouffer les manifestations et mater toute remise en cause de leur pouvoir, avec plusieurs méthodes. La première consiste à réprimer dans le sang les manifestations. Amnesty a eu accès à des documents officiels attestant que la plus haute instance militaire iranienne a bien donné pour instruction aux commandants des forces armées de toutes les provinces de confronter sévèrement les manifestants descendus dans la rue. Nos enquêtes ainsi que des vidéos révèlent des preuves de l'usage généralisé de la force meurtrière et des armes à feu par les forces de sécurité iraniennes. Rien qu'à Zahedan, à l'est du pays, où une manifestation a eu lieu après la prière du vendredi, au moins 66 personnes, dont des enfants, ont été tuées. À ce jour, le bilan de la répression s'élève à plus de 200 morts, des centaines de blessés et plus d'un millier de personnes arrêtées et détenues arbitrairement. Nos dernières informations recensent la mort de 23 adolescents entre le 20 et le 30 septembre.
Et la deuxième méthode utilisée ?
C'est de sévèrement restreindre l'accès à Internet et aux réseaux mobiles pour tenter de contenir les rassemblements des manifestants et poursuivre leur répression à l'abri des regards. Instagram, le réseau social le plus utilisé en Iran, est drastiquement limité, ainsi que WhatsApp, LinkedIn et Skype. Quant à YouTube, Twitter, Telegram, TikTok et Facebook, ils étaient déjà interdits depuis plusieurs années. Les autorités iraniennes ont désormais couramment recours aux coupures d'Internet. Elles empêchent ainsi le partage d'informations entre les citoyens et la documentation par les organisations internationales et locales des violations des droits humains. Il est très difficile d'obtenir des images d'Iran. La répression se passe à huis clos.
Quant à la troisième méthode, elle vise plus particulièrement les femmes.
Oui. Les forces de sécurité ont violemment attaqué et agressé sexuellement plusieurs manifestantes, avec notamment des cas où des femmes se sont fait agripper les seins ou tirer violemment les cheveux. Certaines enlèvent leur voile dans la rue et vont même jusqu'à le brûler. Ce simple geste symbolique les expose à des peines de prison. Rappelons qu'en Iran, la loi discriminatoire sur le port obligatoire du voile est en vigueur depuis la révolution islamique de 79.
Et pour les jeunes alors ?
Pour faire taire la jeunesse iranienne, les étudiants sont ciblés. On a vu des étudiants rassemblés dans l'une des universités les plus prestigieuses de Téhéran, scandant « femme, vie, liberté » ou bien « les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation ». Ils ont été violemment réprimés par la police anti-émeute en tirant des billes d'acier et des gaz lacrymogènes. De nombreuses vidéos ont circulé montrant ces images de chaos et de violence.
Et il y a beaucoup d'arrestations ?
Oui, des centaines de personnes ont été arrêtées, journalistes, militants, intellectuels, réalisateurs internationaux, internationalement reconnus, artistes. Parmi eux, le chanteur pop iranien Shervin Hajipour. Il est devenu une cible de faire taire pour les autorités, car c'est lui qui a composé la chanson Barei, pour en persan. Elle est aujourd'hui chantée dans les rassemblements aux quatre coins du monde.
D'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure.
Oui. Pour finir, dans le but de se décharger de toute responsabilité, les autorités iraniennes ont diffusé de fausses informations via des rapports vidéo de propagande pour incriminer les manifestants pacifiques tués lors de rassemblements. Elles les ont qualifiés d'individus dangereux et violents et affirmé que les manifestants avaient été tués par des émeutiers. Les autorités ont également intimidé et harcelé les familles des victimes pour qu'elles se taisent. Avec un formidable courage, face à la répression du régime, la contestation des Iraniens ne s'essouffle pas. Amnesty appelle les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à mettre en place de toute urgence un mécanisme d'enquête indépendant sur les exactions en cours en Iran.
Merci Sophie. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous accueillons maintenant Julien qui représente l'unité locale d'Angers de la Croix-Rouge française. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission.
Bonjour Julien, bienvenue dans notre émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord brièvement l'histoire de votre association ?
Eh bien, bonsoir et puis merci tout d'abord pour cette invitation. Et
avec
pour
plaisir.
Vous présenter très rapidement l'histoire de la Croix-Rouge, c'est une association qui aujourd'hui a plus de 150 ans, puisqu'elle est née en 1859. Mmh. C'est une idée d'Henri Dunant, son fondateur, qui a vécu la bataille de Solferino. Il est passé sur ce champ de bataille, a vu des centaines et des centaines de blessés et de morts. Et là, il s'est dit, eh bien, il faut des gens capables de soigner les blessés, quelle que soit leur nationalité, sur les champs de bataille. C'est comme ça qu'est née l'idée de cette association. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le plus grand mouvement humanitaire au monde, avec une présence dans tous les pays de la planète.
D'accord. Et ça s'appelle Croix-Rouge, en lien avec le symbole religieux?
Eh bien, pas du tout. En fait, Henri Dunant, notre fondateur, était suisse et la théorie la plus probable, c'est qu'on a tout simplement inversé les couleurs du drapeau suisse pour créer cet emblème, la croix rouge sur fond blanc, qui aujourd'hui est reconnu et protégé par le droit international humanitaire.
Mais dans certains pays musulmans, on parle de croissant rouge, n'est-ce pas ?
Exactement. Aujourd'hui, on a trois emblèmes, en fait, qui correspondent à notre mouvement, la croix rouge, le croissant rouge, mmh, et depuis 2005, le cristal rouge, qui est un emblème parfaitement neutre que l'on peut utiliser sur certains terrains internationaux.
D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions, en fait,
sur Angers, en local?
Oui.
Eh bien, à Angers, on a notre unité locale qui est basée à Belbeil, avec une déclinaison d'actions autour du secourisme, de l'action sociale, de l'urgence, mais aussi de la citoyenneté.
Plus précisément, alors, est-ce que vous faites des actions ici, sur Angers, auprès des populations, plus particulièrement, enfin?
Alors, on peut prendre l'exemple de l'action sociale, puisque c'est dans cette action que les deux tiers de nos bénévoles vont pouvoir œuvrer. Donc, sur Angers, on a une boutique solidaire qui est à Belbeil, ouverte à tous, avec vraiment des prix très accessibles. Mmh. Un accueil bébé parent pour les familles en difficulté, une halte répit détente Alzheimer pour les malades d'Alzheimer qui sont toujours à domicile, l'idée étant d'offrir du répit à leurs aidants, ou on a encore par exemple le microcrédit ou des cours d'apprentissage du français. Donc ce qui fait vraiment le propre de nos unités locales, c'est de pouvoir déployer plein d'actions différentes en fonction des besoins du territoire. Le but étant de travailler avec des partenaires et non pas de proposer des actions qui sont déjà faites et très bien faites par d'autres acteurs associatifs, par exemple.
Vous disposez de combien de bénévoles environ dans le secteur d'Angers ?
Alors aujourd'hui, on est autour de 120 bénévoles à peu près, toutes activités confondues, sachant qu'on essaye de faire selon les possibilités de chacun. Donc on a certains bénévoles qui vont venir 4 jours par semaine et d'autres, ça va être un week-end par mois. On s'adapte vraiment aux possibilités de chacun.
D'accord.
Je voulais poser une question. Alors, parmi nous, il y a Sophie en particulier qui fait partie d'un ensemble d'associations pour aider les migrants, les sans-abri, etc. La Croix-Rouge, je ne suis pas sûre qu'elle en fasse partie. Non. Mais quel est votre lien? Je suppose que vous avez des liens avec les personnes, par exemple, qui sont dans la rue, sans-abri. Voilà. Vous avez des gens qui sont peut-être particulièrement formés pour aller à leur contact. Comment ça se passe?
Alors, on peut parler par exemple de nos actions d'urgence. On nous a sollicité, on a des demandes de bénévoles par exemple pour faire des maraudes, mais on sait qu'il y a d'autres associations qui le font. Donc comme je vous disais, nous le but c'est pas de marcher sur les plates-bandes des autres. Par contre, par exemple, quand le plan grand froid va être engagé par la préfecture, on va venir en renfort sur certaines actions. Par exemple, ça va être l'ouverture de jour de la halte de nuit pour permettre un accueil vraiment sur toute la journée. Et puis récemment, avec le conflit ukrainien, on a aussi renforcé nos actions vers les réfugiés, où on a par exemple mis en place un poste informatique qui est ouvert aux réfugiés ukrainiens, mais à l'ensemble des réfugiés. Vraiment, on a profité pour améliorer nos actions, faire une supplémentaire, et ça va permettre de rester par exemple en communication avec le reste de la famille qui est restée au pays.
Je crois aussi, pour l'avoir vu sur Internet, que la Croix-Rouge gère également des établissements scolaires. Je crois qu'il y en a un dans la région, non ?
Alors la spécificité de la Croix-Rouge, c'est qu'on a un peu deux branches qui se développent en parallèle. Mmh. On a une branche bénévole avec à peu près 60 000 bénévoles au niveau national. D'accord. Et on a une branche salariée.
Ah,
on a
d'accord.
à peu près 16 000 salariés mmh. où là ils vont gérer effectivement des centres de formation, des établissements pour personnes handicapées par exemple, là où il faut vraiment des professionnels, des médecins, des
oui,
infirmiers, des éducateurs.
Oui.
Mmh. Et le point fort en Maine-et-Loire, c'est avec le pôle handicap, qui est surtout développé dans le Saumurois. Et à Angers, on a un centre de formation professionnelle dédié aux entreprises pour apprendre, par exemple, les formations sauveteurs-secouristes du travail.
Oui, d'accord. Je crois avoir vu que vous avez un IME à Martigné-Briand.
Tout voilà. à fait.
Hein, c'est ça.
Oui, ça fait partie de notre pôle handicap,
oui.
l'IME à Martigné-Briand et la partie plutôt adulte à Douai-la-Fontaine.
Oui, c'est ça. D'accord.
J'ai cru comprendre que, en fait, les unités locales fonctionnaient beaucoup avec les bénévoles, en fait. Il y avait très peu de salariés.
Les unités locales, c'est uniquement, effectivement, des bénévoles. Nous, on a la chance d'avoir sur Angers une salariée, Nelly, qui est là à mi-temps pour l'accueil et le secrétariat, qui est vraiment d'une aide très précieuse. Mais sinon, on va tourner uniquement avec des bénévoles.
Mmh, d'accord.
Et où sont vos locaux, en fait, sur Angers ?
Alors, nos locaux sont dans le quartier de Belbeil, au 17 rue Le Nôtre. C'est là qu'on fait, par exemple, notre permanence de recrutement, qu'on a la boutique, l'accueil bébé-parent. Et on a d'autres locaux qui sont sur la Roseraie, c'est notre halte répit détente Alzheimer.
Mmh.
Il nous fallait des locaux grands, proches du tramway, qui soient entièrement accessibles.
Mmh.
Donc, c'est un local supplémentaire spécifique à cette action.
Et vos permanences, elles sont du matin jusqu'en fin d'après-midi ou il y a des jours spécifiquement ?
Alors notre permanence de recrutement, ça va être le lundi après-midi, de 14h à 17h dans les locaux de Belbeil. On peut venir sans rendez-vous. Et puis après, nos actions, eh bien, elles s'étalent dans la semaine. On n'a pas beaucoup parlé du secourisme, mais on peut avoir des postes de secours aussi bien en soirée, de nuit, en week-end, pendant les jours fériés.
Je crois que j'ai fait ma première formation, je l'ai faite avec la Croix-Rouge. Alors c'était bien fait. Hein.
Ah oui, et voilà. C'est très important de se former aux gestes de premier secours, notamment avec le PSC1 qui est vraiment ouvert à tout le monde.
Oui. Et qui est même obligatoire pour certaines professions et maintenant, comme les enseignants.
À Quasar, on fait des sessions de formation pour les réfugiés au premier secours, donc ça c'est intéressant. Et donc les permanences au grand public, donc c'est du matin au soir sans problème. Ils peuvent venir dans vos locaux.
Alors, le secrétariat est ouvert, oui, tous les jours, tous les matins, de 9h à midi. Et là, Nelly peut renseigner le grand public vraiment sur l'ensemble des actions, sur le recrutement, sur toutes les questions que les gens vont pouvoir se poser.
D'accord. Mmh. Ok, t'as parlé de halte de nuit tout à l'heure.
Alors, c'est quand on faisait référence, du coup, au public sans domicile fixe.
C'est-à-dire ce qu'on appelle le 115, en fait.
Voilà, c'est ça. Nous, on va pas du tout gérer cette action. On va venir en renfort quand le plan grand froid est déclenché.
Ah, vous venez en renfort? Ça, je savais pas. Ok, d'accord. C'est-à-dire que vous allez l'ouvrir, enfin, cette halte, qu'on appelle d'hébergement d'urgence, c'est ça ? Oui, est ouvert alors toute la journée. Et vous venez en renfort en plus des personnes qui sont salariées là-bas alors ?
C'est ça. Comme en fait, d'habitude, elle n'est pas ouverte en journée. Donc souvent, on fait ça avec d'autres associations, comme le Centre français de secourisme, par exemple. Et c'est ce qui se passe sur Angers. Par exemple, sur Cholet ou sur Saumur, là, on va venir en renfort des maraudes. Donc pareil, on s'adapte à notre environnement, aux autres associations qui sont là pour venir travailler en renfort et en complémentarité.
Donc vous vous rendez également dans les établissements scolaires là, pour assurer des formations ?
Alors ça peut être pour les formations, on parlait tout à l'heure des gestes de premier secours, mais on a aussi tout un programme de lutte contre les discriminations que l'on peut développer en établissement scolaire, et toute une présentation autour du droit international humanitaire. Donc on va se baser sur les conflits qui ont lieu dans le monde pour parler avec les enfants ou les jeunes du respect des droits, mais aussi chez nous. On va élargir pour la dimension, on va dire, citoyenne et pédagogique du droit international humanitaire.
Donc là, il reste que quelques minutes seulement, les actions à venir. Donc c'est vraiment le grand froid, là, le plan grand froid qui risque d'être enfin avec un temps comme aujourd'hui, on a du mal à y croire, mais voilà, qui va bientôt être déclenché, certainement, comme d'habitude, novembre-décembre, c'est ça ?
Là, effectivement, on prépare nos bénévoles au plan grand froid, donc ça veut dire qu'on va leur communiquer toutes les modalités, mais on a des formations aussi qui sont spécifiques à l'urgence, et puis on va aussi continuer nos actions exceptionnel, on va dire, en faveur des réfugiés qui fuient le conflit ukrainien. Étant donné qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe là-bas, on se prépare à tout moment à devoir mettre en place des actions supplémentaires qui viennent en plus de tout ce qu'on a pu mettre en place depuis le mois de mars.
Et dans quels autres pays intervenez-vous également en priorité ?
Alors la Croix-Rouge, elle est vraiment présente dans le monde entier. On retrouve des sociétés nationales dans tous les pays. Mmh. Mais la Croix-Rouge française a aussi une action à l'international, dans beaucoup de pays africains par exemple, mais pas seulement. Mmh. Et si on se réfère par exemple aux chiffres d'une année comme 2019, la Croix-Rouge française à l'international, c'est plus de 4 500 000 personnes qui sont aidées, principalement dans des domaines autour de la santé, de l'accès à l'eau potable, ou ce genre de choses.
Ah oui, d'accord.
Donc vous vivez par des legs, je suppose, des dons?
Tout à fait. Les dons, les legs, ça va être parmi nos ressources les plus importantes. Après, on essaye de développer aussi quelques actions comme les postes de secours, les formations qui sont payantes. D'accord. Et qui vont nous permettre d'amplifier toutes nos actions.
Alors, très très rapidement, tu as parlé de bénévoles formés exprès pour le grand froid. Ça veut dire que tous vos bénévoles, en fait, en fonction des postes qui leur sont alloués, ont une formation particulière, quoi.
Exactement. On a une formation de base qui est commune à tous les bénévoles de l'ensemble de nos actions. Et après, par action, on a des formations spécifiques autour de l'urgence. Ou bien encore, par exemple, on parlait de la halte Alzheimer. Ça peut être des formations spécifiques, personnes malades, personnes âgées.
Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment on peut vous contacter ?
Alors, pour nous contacter, on a une adresse mail, ul.angers@croix-rouge.fr, une page Facebook locale également, qu'il ne faut pas hésiter à aimer, c'est CRF Angers UL.
CRF Angers UL, unité locale.
Exactement, c'est bien ça. Et puis le mieux, c'est de venir nous voir quand vous le pouvez, à notre permanence du lundi après-midi.
C'est quelle adresse ?
Au 17 rue Lenôtre à Belbeil.
17 rue Lenôtre à Belbeil. D'accord, merci beaucoup Julien.
Et merci Julien.
Merci à vous.
Et c'est le moment de notre pause musicale.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
magnifique chose. chanson, comme nous l'a dit tout à l'heure Sophie, cette chanson qui a fait le tour du monde a été créée par le chanteur iranien Shervin Hajipour. Elle entonne toutes les raisons pour s'opposer au régime actuel. Et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains.
Oui, le 12 octobre 2022, les occupants russes ont tué un chef d'orchestre ukrainien à Kherson. Ils ont tiré en se cachant derrière la porte de sa propre maison. Le chef d'orchestre s'appelait Igor Kerpatenko. Il travaillait avec les orchestres locaux et était un arrangeur musical de grand talent. Il n'a pas voulu collaborer ou prendre part aux concerts organisés par la présence russe et ou celle des collaborateurs. Les concerts de Kherson devraient créer l'illusion que la ville continuait sa vie et revenait à la normale. Mais beaucoup de musiciens, comédiens et autres artistes de la région ont tout sauf une vie normale depuis l'arrivée des occupants.
La FIFA ne s'est toujours pas engagée officiellement à mettre en place un fonds d'indemnisation des travailleurs migrants pour les décès et graves préjudices subis au Qatar. Malgré le soutien public d'au moins 7 fédérations nationales de foot, de 4 sponsors de la Coupe du Monde, de joueurs et joueuses de renom, de responsables politiques et malgré le large soutien du public dans 15 pays, des milliers de travailleurs migrants sont morts, beaucoup ont été blessés, leurs salaires ont été volés et ils ont dû payer des frais de recrutement exorbitants.
Au Tchad, selon un bilan provisoire, au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées lors de manifestations le jeudi 20 octobre dans plusieurs villes du pays à l'appel de l'opposition. Elle dénonce le maintien à la présidence de Mahamat Déby pour 24 mois supplémentaires. Le jour choisi pour cette mobilisation correspond à la date à laquelle le fils et successeur d'Idriss Déby, tué au combat en 2021, aurait dû rendre le pouvoir s'il avait tenu son engagement initial de transition de 18 mois.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l'UNICEF France et le SAMU social de Paris publient un rapport conjoint intitulé « Grandir sans chez soi » qui détaille les multiples conséquences de la précarité sur la santé mentale des enfants. En France, le 22 août, plus de 42 000 enfants vivaient dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue. Ces enfants dits sans domicile sont exposés à des conditions de vie dégradées, une cohabitation dans des espaces exigus, avec de fréquentes mobilités forcées et une instabilité sociale, financière et administrative. À ces difficultés s'ajoutent l'isolement, la stigmatisation et les discriminations.
Ils avaient attaqué le siège de SOS Méditerranée à Marseille en 2018. Deux anciens membres de Génération Identitaire ont été condamnés à 1 an et 6 mois de prison ferme. 21 autres, dont un candidat zémourien aux législatives, écopent de peines de prison avec sursis allant de 5 mois à 1 an. La justice a reconnu la gravité des violences. C'est la deuxième fois que des militants de l'ex-organisation d'extrême droite écopent de peines de prison ferme en première instance. Depuis sa création en 2015, SOS Méditerranée revendique le sauvetage de 36 000 vies en Méditerranée centrale.
La situation en Éthiopie devient incontrôlable, s'est alarmé le secrétaire général de l'ONU. Le gouvernement avait affirmé plus tôt vouloir poursuivre ses opérations dans la région septentrionale du Tigré. Le conflit qui oppose depuis novembre 2020 le gouvernement fédéral aux autorités rebelles du Tigré se déroule quasiment à huis clos, le nord de l'Éthiopie étant largement interdit aux journalistes. Après 5 mois de trêve, ayant laissé entrevoir des espoirs de négociation, les combats ont repris depuis la fin août. Le bilan des victimes de cette guerre est inconnu, mais celle-ci a provoqué une catastrophe humanitaire, déplaçant plus de 2 millions de personnes et plongeant plusieurs centaines de milliers d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine.
Le 13 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive multidirectionnelle sur le territoire de la République d'Arménie. Cet événement est passé quasiment inaperçu du grand public, ce sur quoi comptait précisément le pouvoir en place. Pourtant, c'est bien une nouvelle guerre de conquête annoncée aux portes de l'Europe. Si la communauté internationale ne réagit pas immédiatement avec toute la fermeté nécessaire, en 48 heures, sa récente opération a fait près de 300 morts de part et d'autre et des milliers de civils arméniens déplacés. Pourquoi l'Europe, qui refuse toute compromission, a raison avec l'agresseur de l'Ukraine, regarde-t-elle si passivement l'agression brutale d'une autre démocratie en formation ? Peut-être doit-on se souvenir que fin juillet, la Commission européenne a négocié avec le dictateur azerbaïdjanais Aliyev un accord gazier prévoyant le doublement des livraisons de gaz.
Le futur climatique s'annonce encore plus sombre que prévu en France. Selon de nouvelles projections, le réchauffement pourrait être jusqu'à 50% plus intense au cours du siècle que ce que montraient les précédentes estimations. En effet, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent au même niveau, la température moyenne de l'Hexagone pourrait être supérieure de 3,8 degrés en 2100 par rapport au début du XXe siècle. À titre de comparaison, l'été 2022, le deuxième plus chaud jamais observé en France, a marqué un écart de plus 4 degrés par rapport à 1900. Cette méthodologie a déjà été utilisée dans le rapport du GIEC publié en août 2021, mais c'est la première fois que l'exercice est décliné à l'échelle française.
Merci Philippe. Et nous retrouvons maintenant notre amie Céline pour sa chronique d'octobre sur les sans-abri à Angers.
Bonsoir Valérie. Octobre est là et malgré les alertes et les interpellations, à Angers, rien ne change pour les familles à la rue. Ce sont toujours les jokers, ces citoyens qui ouvrent leurs portes pour une nuit ou deux, qui compensent le manque de place. Octobre est là et ce sont déjà 117 nuitées qui ont été assurées avec, pour la seule journée du 17 octobre, 28 personnes sans solution, dont 14 enfants. 26 ont trouvé un toit. Sept familles joker se sont mobilisées. La famille G, qui en désespoir de cause s'est réfugiée devant la halte de nuit, a obtenu une place in extremis. Une famille tunisienne a trouvé refuge chez Elisabeth après avoir dormi deux nuits dehors. Téléphone déchargé, il leur était impossible de joindre le SAMU social. Parce que comment auraient-ils fait pour recharger leur téléphone dans la rue? Ils sont arrivés affamés. Une famille tchadienne qui est en attente d'un départ pour Fontenay-le-Comte a dormi chez Martine et Marc. Une famille azerbaïdjanaise a repris le bus pour la campagne où Sophie les a accueillis pour une nouvelle nuit. Véronique a accueilli les Érythréens. Un jeune couple avec un enfant de 18 mois chez Françoise. La famille mongole chez Paul et Bernadette. Auria et Eliel n'auront pas trouvé de solution. Et puis, que dire? Que dire tout simplement du traitement indigne qu'on a fait à cette famille géorgienne avec un enfant hémiplégique auquel on propose comme solution un hébergement à Cholet dans deux hôtels différents, bien loin de l'humanité et de la protection qu'elle méritait. Octobre est là, Valérie, et rien ne change.
Rien ne change, hélas. Et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Vendredi 4 novembre à 20h, à Beaucouzé, à la MCL, le collectif Ouest Angevin pour l'accueil des migrants organise une soirée film-débat avec le documentaire « Les réfugiés de Saint-Juan ». Juin, qui retrace l'arrivée de Syriens dans une petite ville normande en mai 2017. Cyril Bramy, juriste, formateur en droit d'asile, nous aidera à mieux comprendre la situation des migrants en France et en Europe.
Les lundis 7, 14 et 21 novembre, à l'Institut municipal, à 20h30, trois conférences sur des figures du féminisme. La journaliste Marguerite Durand, fondatrice du journal La Fronde, Cécile Brunschvic et Bertie Albrecht.
Le jeudi 10 novembre, à la MPT de Montplaisir, les associations AFPS et Al-Kamandjati proposent Taha, un spectacle de théâtre musical inspiré de la poésie du palestinien Taha Muhammad Ali.
Le 14 novembre, au Folie Angevine à 19h30, le documentaire Enfants de malheur, réalisé par l'association Quasar, centre LGBTI d'Angers, retrace le parcours d'asile de personnes homosexuelles interrogées. Il faut s'inscrire au Folie Angevine.
Et le vendredi 2 décembre, à la Fac de droit, à 17h15, le mouvement du Nid organise le procès fictif d'un proxénète qui a forcé des mineurs à se prostituer. Cette histoire est inspirée de faits réels, inscription obligatoire et entrée à partir de l'âge de 14 ans. Et il est presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Julien pour sa participation à l'émission. Et n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook, sur la page de Amnesty Angers. À très bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Radio G 101.5 FM.